Bonjour à tous. Bonsoir à tous. Donc, le temps que le transparent s'ajuste, donc je me présente. Mon nom est Dominique Aubert. Comme annoncé précédemment, je suis professeur à l'Université de Strasbourg. Et d'abord, je voulais remercier le professeur Combes de me donner cette opportunité de présenter ce que l'on fait là-bas. Je suis membre de l'Observatoire astronomique de Strasbourg. Et ce soir, je vais vous parler de ma thématique scientifique, qui est la simulation numérique de la formation des premières structures de l'univers, avec une application à ce qu'on appelle l'époque de rayonisation. Alors j'espère qu'on va pouvoir, là justement, on va se mettre en place. Voilà, super. Je vais vous parler en particulier de mon champ d'études privilégié, qui est une période de l'histoire de l'univers qui s'appelle l'époque de rayonisation. Mon séminaire en fait va avoir trois parties. Donc dans un premier temps, en fait, je vais parler de ce qu'est cette fameuse époque de rayonisation. En fait, ça correspond à une des grandes transitions de l'histoire cosmique de l'univers. Donc je vais essayer de vous expliquer dans cette première partie en quoi ça consiste, en particulier qu'est-ce que l'on sait de cette époque de rayonisation et quels sont les enjeux qui y sont liés. Fondamentalement, et ce que j'expliquerai par la suite, c'est que c'est l'époque qui correspond à la formation des toutes premières structures, et par là j'entends formation des premières galaxies et formation en particulier des premières sources de lumière, des premières étoiles au sein des premières galaxies. Par ailleurs, dans un second temps, là je vous parlerai de quelque chose qui va avoir une saveur un petit peu plus technique, c'est que la modélisation, l'étude théorique de cette époque de rayonisation passe actuellement beaucoup par l'utilisation de simulations numériques. Et ça, c'est ce que je fais au jour le jour. Et en particulier, l'étude de cette époque-là amène des nouveaux défis et amène des nouvelles solutions pour répondre à ces défis-là, d'un point de vue numérique, d'un point de vue de modélisation et de simulation. Et c'est ce que je vais expliquer dans cette deuxième partie-là. Et puis la dernière partie de ma présentation, elle fera un peu la synthèse des deux premières, c'est-à-dire que je vous montrerai quelques résultats qui ont été obtenus sur la physique de cette époque-là, obtenus à l'aide des moyens numériques de calcul. Donc dans un premier temps, je vais vous parler de cette fameuse époque de rayonisation. Donc pour essayer de vous introduire ce dont il s'agit, je vous présente ici en fait ce qui est une frise chronologique qui représente la formation des grandes structures de l'univers. Donc ça, c'est une frise chronologique qui a été faite à partir d'une simulation faite à Strasbourg. Nous, aujourd'hui, nous sommes ici. On est 13,8 milliards d'années après le Big Bang. Le Big Bang est quelque part ici à gauche. Et sur la partie gauche de la frise, ici, j'ai représenté la production, l'émission du fond diffus cosmologique qui a eu lieu 380 000 ans après le Big Bang. Et ce que vous voyez ici dans cette frise, donc le temps s'écoule de la gauche vers la droite, c'est l'émergence progressive de ce qu'on appelle les grandes structures de l'univers, représentées ici dans des teintes bleues. Vous voyez la distribution du gaz dans le cosmos. La dimension transverse ici de cette frise-là, c'est environ 300 millions d'années-lumière. Et là, ce que l'on voit apparaître, représenté par des petites taches rouges, en fait, c'est la distribution des galaxies, galaxies qui deviennent de plus en plus nombreuses, de plus en plus massives, au sein de ce réseau de grandes structures bien connues, je pense, à ce stade pour vous, c'est-à-dire ce réseau de filaments, ces grands vides, ces grands amas, qui évoluent en fait sous l'action conjointe de la gravitation et en compétition avec l'expansion de l'univers. Donc, ce processus de formation des grandes structures conduit à la formation des galaxies. Et si vous regardez cette frise chronologique, vous constaterez que certaines régions sont plus sombres que d'autres. Le caractère sombre ou clair du pixel sur cette frise représente en fait l'état d'ionisation de la matière. C'est-à-dire que quand on est ici, proche de nous, à droite sur cette frise-là, aujourd'hui, 13,8 milliards d'années après le Big Bang, l'essentiel de la matière atomique, c'est-à-dire l'hydrogène essentiellement dans le cosmos, est sous forme ionisée aujourd'hui. D'accord ? Par contre, quand on remonte dans le passé, qu'est-ce que l'on constate ? Et en particulier juste après l'émission du fond diffus cosmologique, dont je vous rappelle que la raison d'être, c'est précisément la production d'atomes, la recombinaison de la matière cosmique. Quand on est proche de l'émission du fond diffus cosmologique, il n'y a pas ces teintes sombres. Et ce qu'on voit, c'est que l'univers était essentiellement sous forme atomique neutre, pas ionisée. Et donc, il a dû se passer quelque chose entre les deux, une transition que l'on voit ici. On voit ces petites taches sombres qui apparaissent et qui deviennent de plus en plus grandes et qui finissent par remplir toute la frise. Cette transition, ça s'appelle l'époque de rayonisation. D'accord ? Cette époque de rayonisation, quand est-ce qu'elle a eu lieu ? Vous voyez, je vous ai mis des petits temps ici. Elle a eu lieu essentiellement entre 300 millions d'années et 1 milliard d'années après le Big Bang. C'est-à-dire qu'on est là environ dans les 7-8% de l'histoire de l'univers aujourd'hui. Aujourd'hui, on est 13,8 milliards d'années après. Là, on est tout début, on est en train de regarder l'univers jeune. Et quel est le moteur qui explique l'apparition de ces taches sombres, de ces régions ionisées dans le cosmos qui deviennent de plus en plus importantes jusqu'à dominer ? C'est la lumière créée par les premières étoiles au sein des premières galaxies. Les premières sources de lumière, elles produisent du rayonnement ultraviolet. Ce rayonnement ultraviolet, il va se propager dans le cosmos et former des petites bulles ionisées autour des sites de formation des premières sources. Sous l'apport continu de cette lumière, les bulles vont devenir de plus en plus grandes. Sous la formation de plus en plus efficace des premières galaxies et des premières étoiles, les bulles vont être de plus en plus nombreuses. Et on va aboutir à une fusion complète de ce réseau de bulles ionisées qui s'appelle la réionisation et qui a lieu environ 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc en termes de redshift, si vous commencez à être un peu habitué à ça, ça correspond à des redshifts qui sont de l'ordre de 6 pour la fin de la réionisation. Et cette transition débute environ quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, quand apparaissent les premières sources. Donc ce processus-là, il est régi par la lumière ionisante produite par les premières étoiles. Et donc aujourd'hui, eh bien, ça, après cette réionisation, ça laisse place à un univers qui est complètement ionisé. Donc quand je parle ionisé, c'est hydrogène ionisé, d'accord, la très grande majorité des atomes du cosmos. Et essentiellement chaud aussi. Il y a une procédure de chauffage dans cette transition-là, parce que la lumière ultraviolette, non seulement ça ionise, d'accord, celle qui est produite par les étoiles, non seulement ça ionise, mais ça chauffe aussi. Donc ici, avant la réionisation, on est dans un gaz hydrogène qui est de l'ordre de quelques Kelvin, d'accord, voilà, vraiment froid. Après la réionisation, aujourd'hui, on est plutôt de l'ordre, dans le milieu intergalactique, d'un gaz qui est de l'ordre de quelques dizaines de milliers de Kelvin, d'accord, qui est dû à cette transition-là. Donc pour voir ça de façon un petit peu plus dynamique, je vous présente ici une simulation numérique de cette époque de réionisation. Les régions qui sont bleues sont neutres, les régions qui sont rouges sont ionisées. Et là, ce que vous voyez, c'est une boîte qui représente environ 300 millions d'années-lumière de côté. Et on voit les sources ici qui apparaissent au sein des premières galaxies. Donc les sources créent des bulles ionisées autour d'elles, ces bulles ionisées grossissent et finissent par percoler pour donner un univers qui est complètement réionisé 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc comme vous pouvez voir, le processus est assez violent, hein. Il faut quelques centaines de millions d'années pour complètement percoler, pour complètement ioniser le volume, ce qui à l'échelle de l'histoire de l'univers, 13,8 milliards d'années, est court, et ce qui reste aussi relativement court à l'échelle de la réionisation de l'âge de l'univers à cette époque-là. Donc c'est un processus assez rapide. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la communauté. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est le lieu et l'endroit, l'époque surtout, où se forment les premières structures. Donc quand, par exemple, on s'intéresse à la formation des galaxies, ben là, c'est l'occasion de regarder ce qui se passe au tout début, qu'est-ce qui se passe quand la physique un petit peu compliquée des galaxies se met en place. Et donc du coup, ça c'est quelque chose qui intéresse beaucoup la communauté astronomique. Et comment est-ce qu'on va faire ? En fait, c'est pas très compliqué. En fait, il faut regarder l'univers quand il est jeune. Et en astronomie, comme vous le savez tous, on a quelque chose de très pratique, c'est si on veut regarder loin dans le passé, c'est-à-dire dans le premier milliard d'années de l'univers, il suffit de regarder loin. Eh bien, en fait, on est en train de mettre en place les instruments qui permettent de regarder très loin dans le cosmos, d'accord ? Pour pouvoir regarder l'univers tel qu'il était à cette époque-là. Donc là, ici, par exemple, je vous ai mis trois instruments qui sont en train d'être mis en place pour regarder ces époques-là, dans l'univers très lointain. Donc ici, en bas à gauche, par exemple, vous avez JWST, qui est un télescope spatial qui va regarder dans l'infrarouge américain et qui va être le remplaçant en fait, du télescope spatial Hubble. Lui, il va plutôt regarder les premières galaxies dans l'infrarouge, les lieux où les premières étoiles vont se former. En haut à droite, ici, vous avez le grand interféromètre radio SCA, hein, qui va être construit sur deux sites, en Australie et en Afrique du Sud. Alors, lui, cet instrument, qu'est-ce qu'il va regarder ? Lui, il va regarder plutôt l'émission du gaz en train de se faire grignoter par le rayonnement des premières étoiles. D'accord. Donc, ça, c'est en train d'être mis en place. L'instrument est en train d'être mis en place actuellement. Et puis ici, en haut à gauche, là, c'est un autre exemple que j'ai donné, c'est Athéna, le futur grand satellite d'observation X européen, qui va être mis en place donc, à une distance un peu plus grande temporelle, hein, donc dans une dizaine d'années. Lui, il va regarder ce qui va se passer en rayon X à ces époques-là, et en particulier, il va regarder l'apparition des premiers noyaux actifs de galaxies, à cette époque-là, noyaux actifs de galaxies qui produisent aussi de la lumière, qui produisent aussi du rayonnement ionisant, et qui peut-être contribuent la réionisation. Alors ceci étant, ça c'est pour bientôt, mais c'est-à-dire que ce n'est pas encore maintenant. Et en fait, pour être très franc, honnêtement, on ne sait pas grand-chose de cette époque-là. C'est-à-dire on sait que ça a eu lieu, on sait à peu près quand est-ce que ça a eu lieu, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer après, mais c'est à peu près tout ce que l'on sait. Et c'est pour ça aussi qu'on développe les moyens qui permettent d'en savoir un peu plus sur cette époque de réionisation. Donc là, je vais essayer de vous décrire rapidement qu'est-ce qui nous fait penser que la réionisation a eu lieu et quand est-ce qu'elle a eu lieu. Au travers de deux sondes observationnelles qui sont assez astucieuses. La première, c'est ce qu'on appelle la forêt Lyman alpha. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous avez déjà vu. Le principe est assez malin, je dois dire. L'idée est la suivante, c'est que vous êtes ici observateur et vous regardez un phare lumineux, très lumineux si possible, donc par exemple un quasar, un noyau actif de galaxie, d'accord, ça envoie beaucoup de lumière. Vous le regardez ici à très grande distance et celui-ci vous envoie la lumière. Par exemple, il vous envoie la lumière qui correspond au Lyman alpha, c'est-à-dire une des transitions de l'atome d'hydrogène. Donc vous le regardez et vous faites un spectre, et en particulier, vous voyez une raie d'émission ici, d'accord, qui est la raie Lyman alpha. Cette lumière, elle vient vers vous, mais cette lumière, elle va passer, par exemple, au travers d'un premier nuage ici, un nuage de gaz d'hydrogène qui contient quelques atomes neutres, d'accord ? Il en faut pas beaucoup. Et ces atomes d'hydrogène, eh bien, ils sont capables aussi de faire cette transition, d'accord ? Donc, ils sont capables d'absorber ce rayonnement-là. Mais le truc, c'est que ce nuage-là va percevoir la lumière du quasar décalée vers le rouge. Pourquoi il va voir ça, la lumière du quasar décalée vers le rouge ? À cause de l'expansion de l'univers. Le résultat, c'est que ce nuage va absorber avec la même transition ce rayonnement-là, mais à une position décalée dans le spectre, ici. Il va faire une dent dans le spectre. Et puis, il y a une partie de la lumière qui va pouvoir continuer et qui va rencontrer un deuxième nuage. Ce nuage-là va aussi faire la même absorption. Mais le temps de parcours pour atteindre ce deuxième nuage, il est encore plus important que pour le premier. Donc, il y a eu plus de décalage vers le rouge, donc il va aussi imprimer une dent dans le spectre, mais à une position encore plus décalée, qui est ici. D'accord ? Et ainsi de suite. Le troisième nuage va mettre une dent dans le spectre, mais un peu plus loin. Le quatrième nuage, une dent dans le spectre, encore un peu plus loin. Et ce processus-là, ce phénomène-là, quand on l'observe, c'est ce qu'on appelle la forêt Lyman alpha. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans un spectre, quand on regarde un vrai spectre maintenant de quasars, ça vous fait tout un réseau, comme ça, d'absorptions qui peuvent être très très nombreuses et qui vous donnent, en fait, littéralement, la distribution de tous les nuages absorbants sur la ligne de visée qui est entre vous et ce phare lointain. Et quand on étudie ce genre de spectre-là, on est capable de dire où sont les nuages sur la ligne de visée et à quelle position, essentiellement. D'ailleurs, ici, vous avez deux spectres de quasars observés. Celui du bas, ici, c'est un quasar qui est très lointain. Donc, vous voyez, la forêt est très abondante. D'accord ? Il y a beaucoup il y a beaucoup d'éléments absorbants le long de la ligne de visée. Celui du haut, c'est un quasar qui est plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous. Et comme il est plus proche de nous, il y a moins de nuages entre lui et nous, d'accord ? entre le phare et nous. Donc, du coup, il y a moins de forêt. D'accord. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous permet de regarder la distribution des nuages qui sont capables d'absorber l'onde de la ligne de visée, donc ça nous permet de regarder la distribution de gaz neutre, d'hydrogène neutre entre nous et ces phares-là. Du coup, qu'est-ce qui se passe maintenant quand on regarde des phares qui sont vraiment très très loin et qui en particulier sont dans des régions qui connaissent la rayonisation et qui sont même antérieures à la rayonisation ? On obtient en fait ce type de diagramme-là, où ici vous avez une série de spectres de quasars. Les quasars, ceux du bas sont proches de nous, sont après la rayonisation, et ceux du haut, là, sont très éloignés, d'accord, et sont dans des époques antérieures à la rayonisation. Bien, ceux du bas, en fait, vous voyez, présentent de la forêt Lyman alpha, c'est-à-dire qu'il y a des petits nuages absorbants le long de la ligne de visée. Mais quand on regarde maintenant ceux qui sont les plus éloignés, on voit que le signal est complètement plat. En fait, il n'y a pas de forêt de la même façon que pour les quasars qui sont plus proches de nous. Alors, en fait, ici, ce n'est pas qu'il n'y a pas de forêt, en fait, c'est qu'il y a une forêt qui est continue. En fait, ici, vous avez un continuum d'absorption, c'est-à-dire au lieu d'être dans la situation précédente où vous avez des nuages discrets le long de la ligne de visée qui sont capables d'absorber, en fait, ces quasars-là, qui sont très distants, sont entourés d'un continu de gaz neutre, d'un continu d'un gaz absorbant, et donc ils sont dans un univers qui n'a pas encore rayonisé. Et donc, pour savoir quand est-ce qu'a eu lieu la rayonisation, eh bien, il suffit de regarder où a lieu la transition entre les quasars qui ont de la forêt Lyman alpha, en bas, et ceux qui n'en ont pas, en haut. Et en fait, on se rend compte que ces tunnels d'absorption, en fait, ils commencent à disparaître environ 1 milliard d'années après le Big Bang. C'est comme ça qu'on a de bonnes idées sur quand est-ce que la transition s'est déroulée. Ici, voilà. L'autre sonde importante de l'époque de rayonisation, elle nous est fournie par le fond diffus cosmologique. Ici, vous avez la carte du fond diffus cosmologique telle qu'elle a été observée par Planck. Et en fait, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut analyser la structure angulaire de cette carte, qui vous donne la distribution angulaire de l'intensité du fond diffus cosmologique. Et l'analyse, en fait, de la structure spatiale de cette carte peut nous donner le nombre de diffusions Thomson des photons du fond diffus cosmologique entre le moment où ils ont été produits à l'époque de recombinaison, c'est-à-dire au moment où le fond diffus cosmologique a été produit, et le moment où ils nous sont parvenus. Alors, comment ça marche ? En fait, l'idée est assez simple, c'est que nous, on est ici, d'accord, avec notre télescope, avec Planck, par exemple, et puis on regarde le fond diffus cosmologique, qui est en fait une coquille qui est autour de nous, ce qu'on appelle la surface de dernière diffusion, et qui est telle que le temps de parcours des photons pour nous parvenir est environ de 13,8 milliards d'années. D'accord ? Donc ces photons-là, quand ils sont produits, d'abord, ils volent dans un univers où le gaz est neutre. D'accord ? C'est les régions qui sont là représentées en blanc. D'accord ? Et puis il arrive un moment où ces photons au cours de leur vol arrivent dans un univers qui rayonise. Et donc autour d'eux, qu'est-ce qui apparaît? Il apparaît une mer d'électrons libres, d'accord, parce que vous ionisez le gaz, avec lequel ils peuvent interagir. Et en interagissant, en fait, ça va modifier la structure spatiale de la carte du fond diffus cosmologique. Et on est capable d'évaluer, en fait, le nombre d'interactions avec les électrons que tous les photons du fond diffus ont connus. Et l'idée, en fait, c'est quoi? C'est que, en fait, on est capable de regarder, on est capable d'évaluer, en fait, ce nombre de diffusions-là. Par exemple, ici à droite, vous avez la densité physique d'électrons libres qui est vue par les photons du fond diffus cosmologique. Donc, le temps s'écoule de la droite vers la gauche, d'accord? Donc, ils arrivent par là, et puis à un certain moment, par exemple, la réionisation arrive, d'accord? Ils arrivent dans un univers qui est réionisé, et puis la densité d'électrons augmente, d'accord? Avant, c'était neutre, et puis là, ça devient ionisé. Beaucoup d'électrons. Et puis, voilà, donc ils diffusent, et ça se voit dans la structure du fond diffus cosmologique. Et puis après, la densité électronique redescend. Alors pourquoi la densité électronique, densité d'électrons libres redescend? Tout simplement à cause de l'expansion de l'univers. C'est-à-dire que vous relâchez vos électrons, vous créez le maximum d'électrons possible à partir de tous les atomes du cosmos, et puis bah après, l'expansion fait que la densité d'électrons, mécaniquement, naturellement, va baisser, mais juste à cause de l'expansion de l'univers. Bien sûr, le truc, c'est que si la réionisation a eu lieu tard, d'accord, eh bien, la densité d'électrons que vous allez faire, elle va être conforme à un univers qui est voilà, plus évolué, c'est-à-dire qu'en particulier dans un univers qui est moins dense. D'accord. Donc si la réionisation a lieu tard, eh bien, l'histoire de densité électronique que va voir votre photon du fond diffus cosmologique, eh bien, elle va être par exemple celle en tiré bleu ici. La densité électronique va être plus faible, d'accord. Le nombre de diffusions va être moins important, tout simplement parce que les distances sont plus grandes dans un univers qui est plus évolué, toujours à cause de l'expansion de l'univers. Donc on est capable en fait d'évaluer le nombre de diffusions que subit un électron du fond diffus cosmologique dû aux électrons qui sont relâchés durant la réionisation. Si on a beaucoup, s'il y a beaucoup de diffusions, la réionisation a eu lieu tôt, s'il y a peu de diffusions, la réionisation a eu lieu tard. Et essentiellement, ce que Planck voit, c'est que la réionisation, la moitié de la réionisation a eu lieu à un redshift de 7,7, quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, et c'est à peu près conforme à ce que voient les quasars, comme je l'ai décrit précédemment dans la forêt Lyman Alpha. Il y a une autre preuve, alors cette fois-ci beaucoup plus indirecte, d'une existence potentielle du processus de réionisation. C'est une preuve qui est beaucoup plus locale, là pour le coup, qui est beaucoup moins cosmologique. Sur la gauche, ici, ce que vous avez, c'est un résultat de simulation numérique qui vous montre ce à quoi devrait ressembler la distribution de matière noire autour d'une galaxie comme la Voie lactée ou comme la galaxie d'Andromède. D'accord. Donc, qu'est-ce que l'on voit? On voit que la matière noire est distribuée sous forme d'un gros halo, hein, au sein duquel une galaxie est censée résider, et qu'elle est entourée d'un très grand nombre de sous-structures de matière noire. D'accord. Donc ça, c'est la prédiction standard des modèles de matière noire froide, c'est que les galaxies, eh bien, autour d'elles, ont un cortège de petites structures, très nombreuses, structures qui sont a priori susceptibles d'héberger des galaxies de la matière lumineuse. D'accord. Le problème, c'est que... Donc ça, c'est un modèle, simulation numérique, d'accord. Et le problème, c'est que maintenant, quand on regarde ce qui se passe en vrai autour de nous, d'accord, et par exemple, ici, ça, c'est le recensement des galaxies satellites autour de la galaxie d'Andromède, d'accord, bah, ici, vous aviez en fait quelques centaines, voire des milliers de sous-structures. En vrai, des galaxies satellites autour des grosses galaxies, il y en a quelques dizaines à tout casser. D'accord. Donc là, il y a un problème d'ordre de grandeur, d'accord. On ne comprend pas pourquoi, d'accord, si le modèle de matière noire froide prédit autant de sous-structures, pourquoi toutes ces petites sous-structures n'hébergent pas de la lumière. D'accord. Donc il faut trouver un mécanisme pour pouvoir empêcher ces structures-là de former des étoiles et donc de produire de la lumière. L'un des mécanismes possibles, peut-être, éventuels, c'est la réionisation. Pourquoi? Parce que quand la réionisation a lieu, vous remplissez l'univers en fait, de lumière ultraviolette qui ionise, mais aussi qui chauffe, et qui chauffe le gaz. Et qu'est-ce qui se passe quand vous chauffez le gaz? Eh bien, en fait, vous changez les conditions, d'accord, vous rendez ces objets-là moins susceptibles de transformer leur gaz en étoiles. En fait, vous changez les conditions thermodynamiques du gaz. Essentiellement, ça change plusieurs choses qui font un peu conspiration pour empêcher la formation d'étoiles. La première, c'est que ça change la façon dont le gaz est accrété sur ces objets-là. Par exemple, vous avez des filaments de gaz, quand vous les chauffez avec du rayonnement ionisant, ils deviennent plus gros, plus diffus, d'accord, moins denses que s'il n'y avait pas de rayonnement. Par ailleurs, quand vous chauffez le gaz, bah vous l'empêchez de refroidir. Or, il faut que le gaz y refroidisse pour devenir suffisamment dense et former des étoiles. Et enfin, par ailleurs, dernière chose, c'est quand vous chauffez le gaz aussi, en particulier, c'est tous ces petits objets-là, ils ont un puits de gravité qui est assez faible parce qu'ils ne sont pas très massifs. Et quand vous chauffez le gaz, bah, le gaz a tendance à s'enfuir. Il peut sortir et donc freiner la formation d'étoiles dans ces petits objets. Donc la réionisation, ce serait peut-être une façon de réconcilier cette vue théorique avec cette vue observationnelle du cortège de satellites autour des grosses galaxies. Alors, il y a quelque chose qui pourrait suggérer que ça va dans ce sens-là. C'est représenté sur ce diagramme-là. Ici, ce que vous voyez, c'est des modèles d'histoire de formation d'étoiles faits à partir d'observations dans des satellites autour des grosses galaxies locales. D'accord. Donc, par exemple, ici, vous avez la galaxie de Draco, ici, vous avez Léo et Hercules. Tout ça, ce sont des petites galaxies autour des grosses galaxies locales. Et ici, ce que vous avez en noir, c'est représenté la fraction d'étoiles qui sont déjà en place à un instant donné dans l'histoire de l'univers. Donc, par exemple, ici, vous voyez, si je prends Andromeda 13, là, ici, d'accord, eh bien, vous voyez que 85% de ces étoiles, d'accord, sont déjà en place environ 12 milliards d'années après le Big Bang. D'accord. Ça, 12 milliards d'années après le Big Bang, c'est intéressant parce que c'est à peu près la fin de la réionisation. Donc c'est comme si, en fait, si vous voulez, par exemple, la galaxie Andromeda 13, ici, elle n'a plus été capable de former d'étoiles après cet instant-là. Pourquoi est-ce qu'elle n'a plus été capable de former d'étoiles? Il y a plein de raisons possibles, mais la réionisation, ça peut en être un. Et il se trouve que la réionisation, ça a eu lieu à peu près à cette époque-là. D'accord. Quand on regarde l'histoire de formation d'étoiles de ces petits objets-là, on a l'impression qu'il se passe toujours un peu quelque chose au moment où la réionisation a eu lieu, donc ça semble suggérer qu'il se passe quelque chose, que la réionisation, vous voyez, affecte le contenu stellaire de ces objets-là. D'accord. Plus globalement, en fait, se pose la question de savoir c'est quoi les sources de la réionisation. Qu'est-ce qui produit les photons? Qu'est-ce qui produit le rayonnement qui fait changer l'état d'ionisation du cosmos? D'accord. Ben, on ne sait pas trop, en fait. Honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas trop. En particulier, ce que vous avez ici, vous voyez, c'est un diagramme qui est assez bien fait, qui vous représente... Alors, vous voyez, ici, en haut, vous avez l'âge de l'univers, d'accord, depuis le Big Bang. Donc, ici, c'est les périodes les plus reculées, 400 millions d'années après le Big Bang. Ici, c'est les périodes un peu moins reculées, 1 milliard d'années après le Big Bang. Et ici, ce que vous avez, en fait, c'est la brillance des galaxies. Et en fait, ça, c'est le recensement de toutes les galaxies qu'on connaît aujourd'hui à ces époques-là, qu'on voit à ces époques-là. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit que plus on va dans les périodes reculées de l'histoire de l'univers, d'accord, eh bien, moins on en voit, les galaxies. Ça, c'est normal, parce qu'elles sont dures à voir. D'accord. Et puis, non seulement moins on en voit, mais je ne sais pas si vous voyez, mais ça remonte un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a tendance à biaiser vers les galaxies les plus brillantes. Alors que forcément, les galaxies qu'on voit très très loin, ce n'est pas la galaxie lambda de base, c'est la galaxie qui envoie beaucoup de lumière. D'accord. Donc, on a une vue biaisée de cette chose-là. Tout ça pour vous dire qu'on a une assez mauvaise connaissance. Vous voyez, il y a très peu d'objets ici, hein, pour un âge d'univers de 500 millions d'années. On a une assez mauvaise connaissance observationnelle des galaxies qui sont à cette époque-là et de la quantité de lumière qu'elles peuvent produire. Et en particulier, on se pose des questions. Donc, par exemple, bah, quelles galaxies contribuent le plus au budget de photons? Est-ce que c'est les très grosses galaxies très brillantes, mais qui sont peu nombreuses? D'accord. Ou bien, est-ce que c'est les petites galaxies peu brillantes, mais qui sont très nombreuses? D'accord. Donc, on ne sait pas aujourd'hui. Et puis, on peut se poser la question, de toute façon, si on prend toutes les galaxies, ce qu'on croit être leur production de rayonnement, est-ce qu'elles sont capables de rayonniser l'univers? Est-ce qu'elles sont capables de cracher assez de photons compte tenu du nombre d'atomes d'hydrogène qu'on sait est disponible dans le cosmos? D'accord. Et puis, une autre question que moi, je n'aborderai pas ce soir, mais par exemple, on se pose la question, bah, quelle est la contribution des noyaux actifs de galaxies qui produisent aussi des photons dans ce processus-là? D'accord. Donc, les grandes questions qu'on a, bah, c'est celle-ci. Hein. Quelle réionisation est produite par les premières galaxies? Quelle est la géométrie de la réionisation, vous voyez, de ce réseau de bulles ionisées qui percolent? Quelle est sa chronologie, sa rapidité, etc. Donc ça, c'est de la cosmologie, c'est une question de cosmologie, c'est l'univers dans sa globalité. Et puis, il y a une autre question, c'est la question un peu opposée, c'est bah, quelles premières galaxies sont façonnées par la réionisation? Parce que, comme je vous ai montré, le rayonnement va affecter le contenu stellaire des galaxies. Donc comment est-ce que les galaxies elles-mêmes sont affectées par ce processus à très grande échelle? Le contenu stellaire, etc. Donc là, c'est plutôt de la physique des galaxies. Et en fait, globalement, c'est un problème en fait, compliqué, d'accord, dans un univers jeune, qui n'est pas vraiment le nôtre. Hein, le nôtre a beaucoup plus évolué. Celui qui est autour de nous, il a 13,8 milliards d'années, mais on est en train de regarder l'univers distant très jeune, qui ne nous ressemble pas beaucoup. Et puis, dans des conditions, bah, donc, comme c'est un univers qui ne nous ressemble pas beaucoup, bah, on a parfois du mal à faire des modèles avec. Donc l'idée, bah, c'est qu'on essaie de répondre à ces grandes questions, et moi, l'activité à laquelle je participe, c'est d'essayer de répondre à ces grandes questions, mais via la production de simulations numériques, et c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors comment est-ce qu'on fait maintenant une simulation numérique de cette époque de rayonisation, et quels outils on développe pour faire ça? Alors je vais commencer juste par vous présenter les simulations numériques de l'époque de rayonisation. Ici, vous avez une simulation qui s'appelle CODA1-AMR, que j'ai faite en début 2017, et qui vous montre ici, vous voyez en bleu, la distribution de gaz dans un cube d'univers qui fait environ 300 millions d'années-lumière de côté, aujourd'hui. D'accord. Donc ici, vous voyez le réseau de grandes structures de l'univers, qui est bien connu. Vous avez des petites galaxies qui sont représentées ici comme des points rouges. D'accord. Et superposées, vous voyez des teintes rouges qui vous représentent en fait les régions les plus chaudes à la fin de la réionisation. Parce que ça vous montre en fait la distribution de matière et la distribution de température 1 milliard d'années après le Big Bang, donc en fin de réionisation. Et qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a des régions qui sont plus chaudes que d'autres, hein, qui sont représentées ici en rouge, et si vous regardez bien, en fait, elles sont anticorrélées avec les structures les plus complexes de la distribution de matière qui est en dessous. Vous voyez, les régions les plus complexes, c'est celle-ci, celle-là, d'accord, les filaments, c'est là que les galaxies apparaissent. Mais les régions qui sont encore chaudes en fin de réionisation, en fait, ce sont celles qui sont loin des galaxies, c'est plutôt les vides. Alors la raison, en fait, elle est relativement simple, c'est que la lumière, en fait, elle est produite dans les galaxies, elle est produite dans les régions complexes des grandes structures, elle est produite ici. La lumière, il lui faut un certain temps pour se propager et arriver dans les régions vides, à l'intérieur, dans lesquelles il n'y a pas de galaxies. D'accord ? Les régions vides, c'est celles-ci. Donc, ça veut dire qu'en particulier, ces régions-là, eh bien, ce sont les dernières à avoir vu du rayonnement arriver, et donc ce sont les dernières à avoir chauffé. D'accord ? Alors que les régions qui sont proches des structures complexes, elles sont chauffées très tôt, parce que les étoiles sont apparues à cet endroit-là. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces régions-là, ben, elles ont chauffé tôt, et elles ont commencé à refroidir tôt, d'accord ? À cause en particulier de l'expansion de l'univers. Ces régions-là, elles ont vu le rayonnement arriver tard, elles ont chauffé tard, et elles sont encore chaudes, 1 milliard d'années après le Big Bang, c'est pour ça que c'est elles qu'on voit comme étant chaudes. Donc ça, c'est une simulation numérique, c'est 30 000 processeurs et 4096 GPU, et je vous expliquerai ce que c'est par la suite, qui ont tourné en fait sur le supercalculateur américain Titan. C'est 20 millions d'heures de calcul, 400 téraoctets de données, donc ça, c'est des gros calculs, et c'est des choses que l'on fait à l'Observatoire de Strasbourg. Autre simulation que nous avons fait à l'Observatoire de Strasbourg, c'est les simulations qui ont été faites par un de mes collègues, Pierre Oswirk, qui vous représente ici une frise temporelle de l'époque de réionisation. Alors ça, c'est une simulation qui a été faite avec d'autres outils que nous avons développés là-bas. C'est des volumes de données, c'est des quantités de calcul qui sont très importantes, d'accord ? 40 millions d'heures de calcul, 2 pétaoctets de données, d'accord ? C'est très très gros, 2 pétaoctets de données. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler d'un futur observatoire qui va s'appeler le LSST, d'accord ? Le LSST, c'est un grand observatoire américain qui va faire tout le ciel tous les deux jours, d'accord ? Ça, c'est quelque chose qui est très important pour la communauté du big data, les physiciens des particules vont aider les astronomes. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se mettent en place pour essayer de résoudre, comment dire, de traiter le volume de données qui va être fait par le LSST, d'accord ? Bah, ça, d'accord, c'est 100 nuits de LSST. D'accord, c'est 100 nuits de LSST qu'on étudie essentiellement à deux à l'Observatoire astronomique, Pierre Oswirk et son thésard, Joe Lewis, que je salue s'il me regarde. D'accord. Donc l'idée c'est quoi ? Bah, c'est qu'il faut des codes pour pouvoir produire ce type de simulation-là. Et il y a un mot-clé qui est important, c'est hydrodynamique radiative. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où la lumière joue un rôle très important et il faut être capable de faire de la physique de la propagation du rayonnement. La lumière, elle est créée, elle se propage, elle interagit avec la matière, elle a une influence sur le gaz qui se structure au sein de ces boîtes d'univers, et donc il faut être capable de faire cette hydrodynamique radiative dans des simulations numériques. Et c'est ce que je vais essayer d'expliquer un petit peu rapidement maintenant. Donc l'idée, si on veut faire une simulation cosmologique comme je vous ai présenté, c'est qu'il faut être capable de modéliser en simultané plusieurs processus physiques. D'accord ? Donc forcément, il faut de la gravitation, hein, d'accord, qui va aider à structurer la matière. Il faut inclure les effets de l'expansion de l'univers. Ici, on est très intéressé par la dynamique du gaz, de l'hydrogène, d'accord ? Donc il faut faire de la mécanique des fluides, hein, de l'hydrodynamique. Il faut faire de la chimie, enfin de la thermochimie, précisément, parce que ce gaz, par exemple, il va ioniser, il va recombiner, il va chauffer, il va refroidir avec des processus thermodynamiques, donc il faut être capable de modéliser ça aussi. Il va falloir avoir des modèles sous gris pour, par exemple, fabriquer des étoiles à partir du gaz, d'accord ? Et surtout, il va falloir être capable de faire, je l'ai mis en gras ici, ce qu'on appelle du transfert radiatif. Le transfert radiatif, c'est la physique de la propagation de la lumière et de son interaction avec la matière, d'accord ? Et bien sûr, alors tout ça est couplé, hein, d'accord ? Tout ça interagit avec tout, d'accord ? La gravité influence l'hydrodynamique influence la formation stellaire influence le transfert radiatif, etc., etc. D'accord ? Donc il faut être capable de faire ça de façon couplée. Et comment est-ce qu'on fait ça de façon couplée ? L'une des voies pour pouvoir traiter ce problème dans toute sa complexité, à l'aide de principes premiers, si j'ose dire, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des simulations numériques et d'utiliser des ordinateurs. Donc l'idée, c'est de faire comment ? Juste pour vous expliquer un tout petit peu la saveur de la chose, c'est qu'on prend toutes les lois de la nature celles qu'on pense être pertinentes pour le problème qui nous intéresse, on les numérise et on les met sous une forme qui est compréhensible par l'ordinateur. Je vais essayer de développer ça un tout petit peu plus par la suite. Alors c'est des équations différentielles, d'accord ? C'est des équations différentielles qu'on fait résoudre à l'ordinateur, hein, mais c'est des équations différentielles. Et comme c'est des équations différentielles, il faut des conditions initiales, d'accord, pour pouvoir résoudre le problème et dire quel est l'état de mon univers 1 milliard d'années après le Big Bang. Ces conditions initiales, par quoi elles sont données ? Eh bien, elles sont données par essentiellement la distribution de matière telle qu'elle est vue par Planck, d'accord ? Telle qu'elle est vue par les expériences du fond diffus cosmologique. Donc on utilise des conditions initiales qui sont conformes, eh bien, à l'état d'univers tel qu'il est observé, mais aux époques les plus reculées. Et puis on fait tourner la machine et on obtient des résultats, et donc on peut simuler 1 milliard d'années de rayonisation et regarder quels sont les processus importants et ceux qui doivent être anticipés en vue des prochaines observations. Alors bien sûr, un ordinateur, c'est un objet numérique, c'est-à-dire que c'est difficile de lui faire comprendre des quantités continues, et donc il faut numériser les problèmes, c'est-à-dire qu'il faut essentiellement découper, digitaliser en fait, les problèmes qui nous intéressent. Donc par exemple, ici en haut à gauche, là, ce que vous voyez, c'est un calcul relativement standard d'instabilité dans un disque de matière en rotation, d'accord ? Eh bien la matière, ici, a été digitalisée, segmentée, si j'ose dire, en particules. D'accord ? Donc on fait suivre à nos ordinateurs la dynamique de particules, où ces particules interagissent entre elles, suivant différentes lois, gravitation, hydrodynamique, etc. Mais on segmente la matière, on la numérise. D'accord ? Bien sûr, ici, c'est une numérisation de la matière. On peut aussi numériser l'espace et résoudre en chaque point de l'espace les équations différentielles qui nous intéressent. Ici, par exemple, vous avez une instabilité hydrodynamique assez standard, avec une grille en chacun des points, une grille où dans chacune des cellules de cette grille, on résout les équations de l'hydrodynamique. Et vous voyez qu'on peut être un petit peu malin avec une grille qui suit les structures qui se forment pour essayer d'apporter de la résolution, de la précision, si j'ose dire, dans les régions où les choses complexes se passent. Donc cette numérisation, cette digitalisation, donc sous forme de particules ou sous forme de cellules, hein, ce qu'on appelle formalisme lagrangien ou eulérien, bah, généralement, quand on fait des simulations numériques, ce qu'on essaye de faire, c'est d'en avoir le maximum possible, des éléments de résolution. On veut soit avoir beaucoup de particules pour échantillonner la matière, soit avoir beaucoup de cellules pour échantillonner l'espace, l'idée étant que bah, on veut avoir le maximum de précision sur les processus physiques qu'on cherche à modéliser. Le truc, c'est que ça coûte cher. D'accord ? C'est-à-dire que plus vous avez de cellules, plus vous avez de particules, bah plus ça demande de calcul, d'accord ? Et plus ça demande de temps et de ressources. D'accord ? Donc là, on est un petit peu pris, voilà, un peu entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on aurait le problème le plus précis possible, mais ça demande du temps et ça demande de la ressource numérique. Alors comment on fait ? Eh bien, il y a deux choix. D'accord ? Soit on a un très gros ordinateur, d'accord, qui possède énormément de mémoire, qui possède beaucoup de processeurs qui permettent de faire des calculs en son sein, et c'est ce gros ordinateur qui va traiter les équations et les faire évoluer pour nous donner l'état de l'univers un milliard d'années après Big Bang. Alors ça, il faut savoir qu'on sait faire, alors on sait faire pas très bien, d'accord, et en plus ça coûte très cher. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait plutôt ? Ce qu'on fait plutôt, c'est ça, c'est-à-dire qu'on prend plutôt des petits ordinateurs, si j'ose dire, très nombreux, d'accord, qui individuellement coûtent moins cher, et on les met en réseau pour en quelque sorte émuler un très très gros ordinateur, d'accord, avec des communications qui doivent se dérouler entre eux. On répartit le calcul entre toutes ces machines-là, ces machines discutent entre elles pour faire évoluer votre faux univers pendant un milliard d'années et vous donner la réalisation. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle du calcul parallèle, c'est de la parallélisation, et ce type d'objet-là, c'est ce qu'on appelle un supercalculateur. Et c'est ce avec quoi on travaille pour faire ces simulations de la réionisation. Donc ici, là, par exemple, hein, je vous mets juste une petite galerie de quelques ordinateurs avec lesquels moi j'ai eu la chance de travailler. Par exemple, en haut, là, c'est le supercalculateur Curie. Donc, Curie, c'était une des machines du CEA. Donc, elle a été décommissionnée il y a peu de temps. Elle a été remplacée par une nouvelle machine, Joliot-Curie, d'accord, qui est environ 4 fois plus puissante. Alors, vous voyez, c'est des grosses machines parce que vous avez 90 000 cœurs de calcul, 90 000 processeurs. D'accord. Dans un portable comme ça, ici, quand vous avez de la chance, vous avez 2, 4 processeurs, parfois 8. D'accord. Là, il y en a 90 000 mis de concert et qui sont capables de travailler ensemble pour faire des très gros calculs. Ici, au milieu, vous avez Titan. C'est la machine qui a servi à faire les simulations CODA que je vous ai montrées précédemment. Titan, c'est une très très grosse machine, 300 000 cœurs de calcul. Pendant très longtemps, ça a été la plus grosse machine du monde. Elle appartient au département de l'énergie américain. Et aujourd'hui, elle est sur le point d'être remplacée par Summit, qui est une machine qui est la nouvelle machine, une nouvelle machine amirale de la ferme de la flotte de calcul américaine. Celle qui est en bas à gauche, ici, je vous la montre. Alors, pour le coup, elle est obsolète. Je ne sais même pas si elle marche encore. Je vous la montre parce qu'elle me permet quand même de parler rapidement d'une petite problématique intéressante. Vous voyez, c'est Mare Nostrum. Alors, Mare Nostrum, pendant très longtemps, ça a été la plus grosse machine européenne. Elle est sur le campus de l'Université de Barcelone. Alors, vous voyez les machines, là, et elles sont encasées, en fait, dans une pièce de verre. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que quand vous mettez beaucoup de processeurs comme ça ensemble, ça chauffe. Ça produit beaucoup d'énergie, et si ça chauffe trop, ça ne marche plus, d'accord ? Donc il leur faut un environnement climatisé, il faut être capable de garder ces machines-là à des températures raisonnables pour qu'elles puissent marcher, d'accord ? Il faut savoir que quand vous commencez à traiter avec des supercalculateurs qui rassemblent plusieurs milliers, voire centaines de milliers de processeurs, en fait, ça devient des machines quasi vivantes. C'est-à-dire que des fois elles marchent, des fois elles ne fonctionnent pas très bien, des fois elles marchent parfaitement, vous ne savez pas très bien pourquoi, des fois elles ne fonctionnent plus, vous ne savez pas très bien pourquoi non plus. Et en particulier, il faut essayer de les bichonner, d'accord, ces machines-là, et en particulier leur donner un environnement thermique qui est raisonnable. Vous noterez en particulier que cette machine-là, elle a été placée dans une chapelle qui est sur le campus de l'Université de Barcelone. Alors pourquoi ? Parce qu'une chapelle, intrinsèquement, ça a aussi des bonnes propriétés thermiques. D'accord ? Il fait frais dans une chapelle, vous avez des gros murs, ça marche bien. Et voilà, cette chapelle sur le campus de l'Université de Barcelone a longtemps hébergé le plus gros supercalculateur européen qui s'appelait Mare Nostrum. Alors les Espagnols ont fait les choses bien parce qu'avant de mettre la machine, ils ont désacralisé la chapelle quand même, histoire de faire les choses dans le bon ordre. Et enfin, en bas à droite, je vous la présente. Alors, moi, j'aime beaucoup cette machine-là parce que, en fait, c'est la machine du CINES. D'accord, le CINES, c'est à Montpellier, donc ça, c'est une machine française. Oxygène, 85 000 cœurs. Donc, vous voyez, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus gros, mais c'est une machine qui fonctionne très bien et c'est la machine qui est de l'enseignement supérieur, si j'ose dire. Donc, c'est un peu la machine des universités. Si j'ose dire. Très bonne machine sur laquelle je tourne actuellement. Alors, il faut savoir qu'en fait, en astrophysique, il y a une tradition, en fait, quasiment depuis le début, de faire du calcul numérique de façon intense. D'accord ? Il y a une raison simple à ça, c'est qu'on ne peut pas faire d'expérience de laboratoire, on n'a pas de paillasse, d'accord ? Les calculateurs, les ordinateurs, c'est ce qui se rassemble, les simulations numériques, c'est ce qui ressemble le plus à de l'expérience de labo pour l'astrophysique. Et en fait, il y a une tradition depuis longtemps dans la communauté astrophysique d'utiliser les supercalculateurs, les moyens de calcul disponibles partout, au maximum de leurs possibilités. Juste pour pouvoir illustrer ça, ici, on va juste se concentrer sur le diagramme de droite. Ça vous représente, en fonction des années, la taille des plus grosses simulations cosmologiques qui étaient faites par la communauté en général. Donc ici, vous avez le nombre d'éléments de résolution, le nombre de cellules ou le nombre de particules. Et ce que l'on voit, en fait, c'est que c'est une tendance. D'accord ? Alors vous voyez, on arrive à faire des simulations qui sont de plus en plus grosses. On arrive maintenant voilà, à des dizaines de milliards d'éléments, d'accord, qui sont traités pour pouvoir simuler l'univers. Et alors, vous voyez, la tendance est sur une droite. Alors, pourquoi elle est sur une droite ? Tout simplement parce qu'on suit la croissance de la puissance de calcul des supercalculateurs. On est toujours au maximum des machines qui sont disponibles et on suit cette courbe de croissance-là. D'accord ? Celle de gauche, c'est la même chose. Hein, je ne vais pas commenter plus là-dessus. Donc, je reviens à la réionisation. La réionisation, c'est de la simulation cosmologique. Vous avez déjà eu des cours là-dessus. C'est de la simulation cosmologique, mais qui amène des défis un petit peu particuliers. Le premier, c'est que la réionisation, ça implique des couplages d'échelles qui sont un peu extrêmes. Les couplages sont extrêmes. Vous voyez, ça, c'est la simulation CODA que je vous ai montré précédemment. Donc l'objectif, c'est de réioniser cette boîte sur ces très très grandes échelles. D'accord ? Mais la source de la réionisation, c'est-à-dire la source de la production de rayonnement lumineux, où est-ce qu'elle est ? Elle est dans les galaxies. D'accord ? C'est les étoiles qui sont au sein des galaxies. Et une galaxie, où est-ce qu'elle est à cette échelle-là ? Vous voyez, si vous prenez ce petit carré-là, vous avez cette distribution de matière-là. Ce que vous voyez ici, c'est la distribution de gaz, d'accord, à la fin de la réionisation. Vous avez ça, et puis quand vous zoomez encore dans le carré, vous avez ça, et puis les étoiles, où est-ce qu'elles apparaissent ? Elles apparaissent dans ces galaxies-là. D'accord ? Donc vous voyez que vous voulez reproduire un problème, un processus qui opère à ces échelles-là, mais dont l'origine se situe à l'intérieur de ces échelles-là. Donc vous avez un couplage d'échelles qui est relativement extrême, c'est-à-dire que quelque part vous voulez un peu le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire que vous voulez des très grands volumes, mais qui sont très résolus. D'accord ? Donc ça coûte intrinsèquement relativement cher, enfin très cher, pas relativement, ça coûte très cher, d'accord ? En termes de calcul à effectuer. Par ailleurs, quand on fait de la réionisation, il y a une physique qu'il faut introduire par rapport aux simulations cosmologiques standards, c'est la physique de la propagation et du rayonnement et de l'interaction du rayonnement avec la matière, ce qu'on appelle le transfert radiatif. Alors pour ça, il y a plusieurs façons de faire. D'accord ? Pour ça, je vous présente les trois grandes familles de transferts radiatifs qui sont disponibles sur le marché. La première, c'est ce qu'on appelle le lancer de rayon. C'est-à-dire que vous avez une source dans votre simulation et vous tracez des droites, des rayons, littéralement, d'accord ? Comme cela. D'accord ? Et puis, le long de ces rayons-là, eh bien, vous résolvez en fait, les équations de l'interaction de la matière avec du rayonnement. Vous regardez comment la lumière, dans chacune des cellules qui sont traversées par le rayon, eh bien, comment la lumière interagit avec cette matière, comment est-ce qu'elle ionise, comment est-ce qu'elle la chauffe, et puis comment est-ce qu'en retour, cette matière-là absorbe le rayonnement. D'accord ? Et vous faites ça dans toutes les directions possibles et inimaginables. Alors, ce que vous voudriez idéalement, c'est que tous les rayons, que toutes les cellules soient visitées par tous les rayons, et que tous les rayons essaient d'échantillonner de la façon la plus optimale le volume qui est autour de vous. Ça marche très bien, d'accord ? Vous voyez, par exemple, si vous avez une source ici et que vous essayez d'envoyer un front de rayonnement sphérique, alors ici, il n'y a qu'un quart du volume qui est représenté, la source, elle est dans le coin, eh bien, vous voyez, ça vous fait un front de rayonnement, d'accord, qui est bien fin, d'accord, qui est bien sphérique, d'accord, dans un environnement qui est peu dense, d'accord. Ça marche très bien. Par contre, le problème, c'est que dès que vous commencez à avoir beaucoup de sources, par exemple, beaucoup d'étoiles dans une simulation cosmologique, vous commencez à en avoir beaucoup, plusieurs dizaines de millions de sources, d'accord, ça commence à coûter un peu cher, d'accord. Il y a une autre façon de faire, c'est une approche fluide, où vous représentez en fait le rayonnement sous la forme d'un fluide qui suit des équations qui ressemblent beaucoup aux équations de la mécanique des fluides. D'accord ? Alors comment ça se passe ? Vous avez une source dans votre coin, et puis vous avez le rayonnement qui coule de cellule en cellule, d'accord, pour interagir avec la matière, un peu à la matière d'un fluide. Alors c'est un fluide un peu particulier quand même, la lumière. Hein. C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez deux jets d'eau, des fluides normaux, et que vous les lancez l'un contre l'autre, ben, il y a un moment les jets d'eau ils vont se croiser, puis ça va faire des éclaboussures. D'accord. Alors que quand vous prenez deux rayons laser de la lumière, d'accord, ils se croisent et ils ne doivent pas se toucher. D'accord. Donc il faut qu'on arrive à faire un fluide, d'accord, mais qui possède des bonnes propriétés de non-collisionnalité. D'accord. Parce que sinon, ben, votre fluide de photons, il va surtout ressembler à un fluide de liquide, d'accord, enfin un liquide, quoi, et ça, ce n'est pas très intéressant. Alors on arrive à le faire. D'accord, c'est pas parfait, d'accord, mais ça a un avantage, c'est que ça nous permet d'utiliser des méthodes numériques développées depuis des dizaines d'années pour la mécanique des fluides. D'accord. Et en particulier, un des inconvénients, vous voyez, c'est que c'est un peu diffusif. Vous voyez, c'est le même problème là, mais vous voyez le front là, qui était bien fin, représenté en rouge, et bien là, il devient un peu épais. D'accord. C'est le côté diffusif de la méthode. Et enfin, il y a une dernière méthode qui est le Monte Carlo, où là, pour le coup, là, le rayonnement est représenté sous forme de paquets de photons. C'est-à-dire que vous lancez des photons, vous échantillonnez de façon pseudo-aléatoire votre rayonnement, et puis vous envoyez des paquets de photons, et vos paquets de photons, ils partent, d'accord, et ils interagissent avec la matière quand un paquet de photons rencontre de la matière. D'accord. Donc vous échantillonnez de façon pseudo-aléatoire le rayonnement. Alors ça, c'est peut-être ce qui ressemble presque de plus près en fait, à la vraie physique du rayonnement. Alors bien sûr, on ne peut pas modéliser chaque photon individuellement, on fait des paquets de photons. D'ailleurs, ça a des petits effets, comme c'est échantillonné de façon pseudo-aléatoire, vous voyez, c'est des petits effets de bruit, d'accord. Mais par contre, c'est très efficace quand vous regardez des effets de transfert de rayonnement très fins, en particulier des effets de diffusion, d'accord. C'est très efficace cette méthode-là pour reproduire ce type de modèle-là. Donc ça, c'est la physique du rayonnement qu'il faut introduire dans une simulation cosmologique pour faire de la réionisation. Le problème, c'est que ça vient avec un défi de taille, et le défi de taille, c'est le suivant. Le problème, c'est que, en fait, la lumière, l'objet qui nous intéresse quand on fait la physique du rayonnement, c'est un objet qui va très très vite. D'accord, ça va à la vitesse de la lumière, ça va à 300 000 km par seconde. Et ça, numériquement, c'est un vrai défi. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand vous essayez de suivre, à l'aide d'une simulation numérique, avec des méthodes numériques, la façon dont un signal physique se propage, la façon idéale dont vous voudriez le faire, c'est celle qui est représentée en bas. D'accord ? Vous voyez, vous avez un front lumineux là, qui avance dans une grille de calcul. D'accord ? Et la situation idéale, c'est quand vous êtes capable de voir votre front passer, vous voyez, de rangée en rangée de façon progressive. D'accord ? Vous voulez que chaque rangée puisse voir le front avancer, d'accord, de façon progressive les unes après les autres. D'accord ? Et ça, en fait, ça garantit une stabilité numérique du schéma. D'accord ? Voilà. Ça garantit une stabilité numérique du schéma. Parce que si vous voudriez faire autrement, par exemple, vous voyez, partir de cette situation-là, et avancer tout de suite d'un coup votre front sur une très très grande durée, par exemple pour qu'il puisse arriver là, faire 4 rangées. Et bien là, en fait, ce qu'on peut montrer, c'est que vous développez numériquement des instabilités. Et en fait, votre calcul explose, fait n'importe quoi, d'accord ? Et donc, vous ne pouvez pas le faire. En fait, vous êtes obligé de faire en sorte à ce que le rayonnement passe de cellule en cellule de façon progressive pour que vous puissiez capturer le processus de déplacement de votre information que vous cherchez à modéliser. Et en fait, en pratique, ça revient à quoi ? Ça revient à ce que le pas de temps, c'est-à-dire la façon dont vous discrétisez l'évolution temporelle de votre processus, eh bien, il doit être inférieur à cette quantité-là, qui est le rapport de la résolution spatiale de votre problème, d'accord, la résolution physique que vous voulez résoudre, divisé par la vitesse du processus que vous voulez suivre. D'accord. Et le problème, bah, vous voyez, c'est que plus la vitesse est grande, plus le pas de temps est petit. D'accord. Et grosso modo, cette quantité-là, elle ne peut pas être plus petite que quand vous traitez la lumière. Résultat des courses, c'est quoi ? C'est que vous avez un pas de temps qui est tout petit. C'est-à-dire que si je veux faire 1 milliard d'années de rayonisation, il va falloir que je fasse des calculs sur des pas de temps qui sont minuscules, et il va falloir que j'en fasse plein, d'accord, des tout petits pas de temps, d'accord, pour pouvoir faire évoluer mon univers d'un redshift voilà, depuis une époque qui correspond à quelques dizaines de millions d'années après le Big Bang jusqu'à la fin de la rayonisation qui est 1 milliard d'années après le Big Bang. Il va falloir que je fasse plein de calculs, d'accord, pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Beaucoup plus que si je n'avais pas de rayonnement. Essentiellement, ça me donne environ 100 fois plus de calculs que si je n'avais pas de rayonnement dans ma simulation cosmologique. C'est pour ça que pendant très longtemps, les simulations cosmologiques, en fait, n'introduisaient pas le rayonnement comme un acteur, comme un véritable acteur de la physique modélisée, d'accord ? Parce que ça coûte très 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 cher. Non seulement ça coûte très cher parce qu'on fait beaucoup de calculs, mais en plus, chaque calcul est très compliqué. C'est-à-dire qu'en particulier, il faut faire de la thermochimie hors équilibre, il faut être capable de mesurer eh bien, le taux de chauffage, le taux d'ionisation de chaque cellule de gaz hors équilibre. Ça, c'est des calculs qui ne sont pas compliqués à faire, mais ça demande beaucoup de calculs. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, calculer des refroidissements qui sont des courbes relativement complexes comme représenté ici. Ici, vous avez une courbe de refroidissement qui vous donne la quantité de joules par seconde que perd voilà, votre atome de base en fonction de sa température. Ben, vous voyez, il y a plein de processus à modéliser. D'accord, ça fait beaucoup de calculs à faire. D'accord, donc, ça veut dire qu'il faut faire travailler l'ordinateur de façon assez intense. Alors du coup, il y a plusieurs façons de résoudre ça, d'accord. Donc c'est un problème qui est intrinsèquement numérique, qui est assez dur à résoudre. Alors comment on fait, nous, à Strasbourg, pour contourner ce problème-là? On utilise ce type de matériel-là. Ce type de matériel-là, c'est ce qu'on appelle des cartes graphiques. Les cartes graphiques, qu'on appelle GPU en anglais, en fait, ce sont des accessoires de calcul qui sont présents dans les ordinateurs et qui sont capables d'accélérer les calculs de façon très importante, et en particulier les calculs de transfert radiatif, d'un facteur qui est de l'ordre de x80. D'accord ? C'est quelque chose qu'on a, c'est une technologie qu'on a réussi à maîtriser à l'Observatoire astronomique de Strasbourg pour nos simulations. Alors, à quoi ça sert, en fait, les cartes graphiques? Je vais vous montrer. En fait, les cartes graphiques, fondamentalement, c'est dans le grand public, mais ça sert à faire du jeu vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, ici, là, vous avez une séquence qui est prise à l'intérieur d'un jeu vidéo, et vous voyez, dans un jeu vidéo, vous avez des effets d'ombre, des effets de réflexion, vous avez, voilà, ici, des éblouissements, vous avez des ombres qui se projettent, ici, vous avez de la réflexion, plus tard, vous allez voir de l'eau, etc. En fait, il faut être capable de calculer en temps réel des effets de transfert radiatif à des fréquences très élevées, hein, puisqu'un joueur, il lui faut environ 60 images par seconde pour qu'il soit content. D'accord ? Donc, vous voyez, ces cartes graphiques-là, eh bien, c'est celles qui sont utilisées par les jeux vidéo pour pouvoir faire de la physique simplifiée, dans ce cas-là, en temps réel. En particulier, ces cartes graphiques sont capables de faire des tâches indépendantes, exigeantes et à haute fréquence, de façon très efficace. Et nous, c'est ce qu'on a été capable d'utiliser pour faire nos calculs de transfert du rayonnement dans les simulations numériques. D'accord ? Donc, par exemple, vous voyez, faire de l'eau comme ça et des reflets sur l'eau, ça demande énormément de ressources de calcul et les cartes graphiques sont capables de le faire. Alors pourquoi ça marche mieux, les cartes graphiques, d'accord, que les processeurs standards, que les ordinateurs normaux ? Juste pour vous expliquer, ça, vous voyez, c'est l'architecture d'un processeur normal au sein d'un ordinateur. C'est la surface, en fait, d'un processeur. D'accord ? Et vous voyez, il y a environ un quart de la surface qui est ici en vert et qui représente la surface d'un processeur qui est dédié au calcul. C'est très peu. En fait, c'est modeste. Le reste, en fait, c'est utilisé à la gestion de la mémoire de votre ordinateur et à la gestion des opérations. D'accord ? Mais les calculs en tant que tels, c'est qu'un quart de la surface. Une carte graphique, l'objet que je vous ai montré précédemment, c'est une architecture qui est complètement différente. C'est que du calcul, c'est tout vert. D'accord ? C'est fait pour faire du calcul, et c'est fait pour faire du calcul de façon parallèle, de façon très efficace. Par contre, du coup, ça gère moins bien les accès mémoire, et ça gère moins bien le flot d'opérations à effectuer. Mais on arrive à s'adapter. Au passage, les cartes graphiques, actuellement, donc nous, on s'en sert pour faire du calcul scientifique, le grand public s'en sert pour faire des jeux vidéo, mais c'est aussi servi dans deux autres occasions. Actuellement, c'est le matériel de prédilection pour faire du minage de crypto-monnaies, d'accord, le Bitcoin, d'accord. Donc ça, c'est les cartes graphiques qui font ça. Et puis aussi, actuellement, vous savez qu'il y a une très très grande poussée de l'utilisation des réseaux de neurones dans plein de domaines, d'accord. Eh bien, le réseau de neurones pour leur faire de l'apprentissage, le matériel de prédilection pour faire ça, ce sont les cartes graphiques. Il y a une énorme poussée de la communauté intelligence artificielle en particulier pour l'utilisation de ce type de matériel-là dans les grands centres de calcul. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, cette simulation-là que je vous ai montrée tout à l'heure, c'est la première simulation sur une centaine de cartes graphiques qu'on a été capable de faire avec les outils que j'ai développés. Ça date de 2010. Ici à droite, vous avez un graphe qui vous représente le temps qu'il faut pour faire une simulation d'une certaine taille de rayonisation. En rouge, c'est ce que vous aviez sur des ordinateurs normaux, des processeurs normaux, d'accord ? Plus c'est gros, plus ça demande du temps, ça c'est normal. Par contre, quand on passe sur carte graphique, on a gagné un facteur 80, d'accord ? C'est-à-dire qu'on va 80 fois plus vite sur les cartes graphiques comparé aux processeurs normaux. 80 fois plus rapide, c'est-à-dire qu'un calcul qui prend un peu moins de 3 mois, vous le faites en une journée. D'accord. Donc ça change beaucoup de choses, et c'est ce qui nous a permis de faire des grandes simulations, ou alors de faire plein de petites simulations pour faire de l'exploration, par exemple, pour essayer de comprendre des processus, pour changer des paramètres, ce genre de choses-là. D'accord. Et par exemple, les simulations CODA que j'ai montrées précédemment, c'est environ entre 4000 et 16000 GPU qui travaillent de concert pour faire la propagation du rayonnement au sein de nos univers synthétiques. Donc du coup, donc là c'est la dernière partie de ma présentation. Maintenant je vais vous montrer quelques résultats qu'on a obtenus avec ce type de matériel-là. Alors par exemple, le premier c'est celui-ci. Donc ça, vous voyez, c'est un film qui vous montre ce qui se passe à l'intérieur d'une des simulations CODA. Ce que vous voyez ici, c'est la distribution de la quantité de rayonnement en chacun des points de cette simulation-là. Donc là, on voit la rayonisation en train de procéder. Vous voyez les galaxies qui apparaissent et qui sont entourées, de lumière qui sortent des étoiles qui s'y forment, et puis on va laisser le temps s'écouler et on va voir qu'à la fin, la simulation va complètement se remplir de lumière, c'est-à-dire que la rayonisation aura été terminée. Et quand on regarde dans le détail, alors je ne sais pas si vous voyez, moi je le vois très bien d'ici, mais ça scintille, d'accord ? Vous voyez que vous avez des chapelets de sources qui apparaissent et qui redisparaissent un petit peu comme une guirlande de Noël, d'accord ? Alors ça, en fait, c'est un processus qui, au sein de notre modèle, procède de la façon suivante, c'est que vous avez une étoile qui apparaît et qui va émettre de la lumière. Cette lumière, elle va chauffer et ioniser le gaz autour d'elle, mais comme ça va chauffer et ioniser le gaz qui est juste autour, eh bien ça va empêcher d'autres étoiles d'apparaître. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut pour que ce gaz au voisinage puisse former des étoiles? Eh bien, il faut attendre que la première étoile s'arrête et meure. D'accord ? Donc elle s'arrête, elle meurt, le gaz va pouvoir retrouver les conditions qui lui permettent de former des étoiles, et vous avez une autre génération qui va apparaître. Et il va falloir attendre que cette nouvelle génération meure pour qu'une suivante apparaisse. Et donc du coup, vous avez des étoiles en fait, qui tuent les générations d'étoiles suivantes, et c'est ça qui produit en fait, cet effet de chapelet qu'on voit dans cette simulation-là. C'est un exemple, vous voyez, du rayonnement produit par les étoiles qui empêche la formation d'étoiles dans les autres galaxies. D'accord ? Et vous voyez, à la fin, là, c'est complètement rayonisé et on ne voit plus que les fluctuations qui se baladent, les fluctuations de rayonnement qui se baladent à très grande échelle. Alors, si on veut être un tout petit peu plus quantitatif, je me focaliserai uniquement sur le graphe de gauche. Ici, vous voyez, on a, ce sont des courbes qui vous montrent le taux de formation d'étoiles des galaxies, c'est-à-dire le nombre de kilogrammes d'étoiles qu'elles fabriquent par an, essentiellement, en fonction de la masse des galaxies, des masses des galaxies qui sont formées dans ces simulations-là. Et qu'est-ce que l'on voit ? Alors, vous voyez, essentiellement, on voit que ça va depuis en bas à gauche jusqu'à en haut à droite, c'est-à-dire qu'une galaxie, plus elle est massive, plus elle forme d'étoiles. D'accord ? Donc ça, c'est relativement naturel. Par contre, ce qu'on constate, vous voyez ici, quand on regarde les galaxies les moins massives, celles qui font entre 100 millions et 1 milliard de masses solaires, alors là, je parle, c'est la masse totale, hein, donc c'est masse de matière noire comprise, eh bien, on voit que la formation d'étoiles, les courbes rouges et noires, elles s'affaissent un peu. Alors, les courbes rouges et noires, en fait, c'est les mesures, mais faites après la rayonisation, alors que les courbes vertes, qui est juste au-dessus, là, c'est la courbe avant la rayonisation. Eh bien, on voit qu'après le passage de la rayonisation, ça s'affaisse un peu, c'est-à-dire que la formation d'étoiles, elle est coupée, elle est supprimée, un tout petit peu supprimée, dans les objets de faible masse. On fabrique moins d'étoiles dans les petites galaxies, c'est le processus que j'ai vu, que je vous ai montré avant, avec le film. Alors pourquoi ça marche surtout dans les petites galaxies, ce processus de suppression ? Bah, simplement parce que les petites galaxies, en fait, elles ont peu de matériaux à l'intérieur d'elles, d'accord ? Donc du coup, elles ont du mal à s'écranter du rayonnement extérieur qui leur arrive dessus et qui supprime la formation d'étoiles. Les grosses galaxies, elles ont beaucoup de matériaux, elles arrivent à écranter certaines régions, au moins à l'intérieur d'elles, d'accord ? Les petites, elles se font flasher, d'accord ? Elles se font complètement chauffer, ioniser, et éventuellement elles perdent leur gaz. En plus, elles sont très légères, comme je vous ai dit, donc elles ont du mal à capter le gaz, et donc c'est elles qui subissent le plus la modération de la formation d'étoiles au cours de la rayonisation. Un autre résultat, plus récent, celui-ci, ça c'est une simulation qui a été faite par des collègues de l'Université de Cambridge avec des outils qu'on a développés à Strasbourg. Ici, vous voyez, vous avez la frise temporelle d'une simulation numérique. Alors en haut, c'est le gaz, la quantité de gaz ionisé. Alors quand c'est bleu, c'est ionisé, en rouge, c'est neutre. Vous voyez, le temps s'écoule de la droite vers la gauche. Ici, vous êtes 650 millions d'années après le Big Bang. Ici, 1 milliard d'années après le Big Bang. Donc ici, c'est la quantité de gaz ionisé. Donc vous avez de plus en plus de gaz ionisé, c'est la rayonisation. Ici, c'est la température, ça devient de plus en plus chaud. Et puis ici, c'est la quantité de lumière, vous avez de plus en plus de lumière. Si vous regardez ce diagramme-là, en fait, vous regardez que la rayonisation est finie très tardivement. En fait, après 1 milliard d'années après le Big Bang, c'est des redshifts qui sont relativement bas, 5,5. C'est plus bas que ce que je vous ai annoncé au début. D'accord ? Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ce type de simulation-là ? Et pourquoi en fait mes collègues pensent que c'est probablement un bon scénario de la rayonisation ? C'est parce que pendant très longtemps, en fait, les simulations numériques ont eu du mal à reproduire ce qu'on appelle la diversité qu'on observe dans les forêts Lyman alpha. Les forêts Lyman alpha, vous vous souvenez, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous regardez un phare et vous regardez le nombre d'absorbants, la quantité de gaz neutre le long de la ligne de visée. Observationnellement, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit ici, alors ici, c'est en fonction du redshift, c'est-à-dire c'est en fonction de la distance du phare, eh bien, l'opacité typique qui est mesurée le long de la ligne de visée. D'accord ? Chacun des points rouges, ici, c'est une observation vers un quasar. D'accord ? Et ce que l'on voit, c'est qu'il y a une très grande dispersion de la quantité de gaz absorbant sur la ligne de visée. Si vous prenez des objets qui sont à z égale 6, par exemple, il y en a certains qui possèdent une opacité qui est à ce niveau-là, d'accord ? Et il y a d'autres objets qui ont une opacité qui est beaucoup plus élevée, alors qu'ils sont dans le même univers, a priori, à la même époque. Et ça, c'est quelque chose qu'on a eu énormément de mal à reproduire avec les simulations numériques. On n'arrivait pas à reproduire la diversité des cas de figure dans l'opacité des forêts Lyman alpha. Mais en fait, maintenant, on arrive à le faire. On arrive à le faire, mais à une condition, c'est qu'on fasse une rayonisation qui soit plus tardive que ce qu'on anticipait précédemment. D'accord ? Si on fait une rayonisation plus tardive, les grandes structures ont le temps d'évoluer plus que si la rayonisation est précoce. Vous avez un plus grand nombre de cas de figure dans la distribution de matière et vous arrivez à reproduire cette grande variété. Autre résultat plus récent, là pour le coup que j'ai fait moi-même il n'y a pas très longtemps, je me suis posé la question de savoir si je prends des galaxies actuelles, d'accord, 13,8 milliards d'années après le Big Bang, quelle est leur histoire de rayonisation passée ? C'est-à-dire en particulier, qu'est-ce qui s'est passé pour, par exemple, la galaxie d'Andromède qui est juste à côté de moi aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé pour elle il y a 12 milliards d'années durant l'époque de rayonisation ? Et j'ai essayé de regarder en particulier quand est-ce que les galaxies d'une certaine masse aujourd'hui, d'accord, quand est-ce qu'elles ont été rayonisées ? J'ai regardé ça dans des simulations numériques, d'accord ? Et j'ai obtenu en fait la courbe qui est représentée en rouge, d'accord, qui vous dit l'instant à laquelle une galaxie a été rayonisée en fonction de sa masse actuelle. Donc, par exemple, vous voyez, si vous prenez un objet de 10 puissance 13 masse solaire, aujourd'hui, alors 10 puissance 13 masse solaire, c'est très gros, d'accord ? Là, on est limite dans la Mad Galaxy, d'accord ? C'est le gros groupe, le petit amas, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit que les objets massifs, aujourd'hui, ils ont réionisé beaucoup plus tôt que les objets moins massifs. On va se concentrer sur la courbe rouge, hein, excusez-moi, d'accord ? Donc, là, les objets très massifs ont réionisé très tôt, 300 millions d'années après le Big Bang. Les objets moins massifs ont réionisé plus tard, environ 700 millions d'années après le Big Bang. Alors, pourquoi ? Bah, ça, en fait, ça se comprend assez naturellement. C'est les objets qui sont très lourds aujourd'hui, d'accord, ce sont les objets qui se sont formés en premier dans l'histoire de croissance des grandes structures, et c'est les objets qui ont hébergé les premières sources, qui ont hébergé les premières étoiles. Donc c'est eux qui ont été réionisés en premier. Les galaxies moins massives, ils ont commencé à se former plus tard, ils ont formé des étoiles plus tard, et donc ils ont réionisé plus tard. D'accord, c'est la tendance que l'on voit ici. Et puis quand on prend même les galaxies encore moins massives, aujourd'hui, de l'ordre de 10 puissance 8, 10 puissance 9 masse solaire, vous voyez, la courbe rouge passe au-dessus du trait noir, et le trait noir, c'est l'époque de réionisation globale en fait, de l'univers. Donc il y a même des galaxies qui ont réionisé après l'époque de réionisation moyenne de l'univers, d'accord ? Les plus petites galaxies. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, les plus petites galaxies aujourd'hui, elles n'ont pas formé d'étoiles, d'accord ? Donc elles ont dû être réionisées de l'extérieur, d'accord ? Il a fallu qu'il y ait un front de rayonnement qui réionise, donc il a fallu que la lumière arrive jusqu'à elle, d'accord ? Et puis quand la lumière est arrivée jusqu'à elle, ça prend du temps de réioniser une galaxie. Et donc, vous avez même des galaxies qui ont réionisé plus tard que l'univers dans sa globalité, parce que ça a pris un certain temps. D'accord. Par ailleurs, on note une très grande variabilité. C'est-à-dire, par exemple, si vous prenez une galaxie aujourd'hui qui fait 10 puissance 12 masse solaire, une voie lactée, d'accord, eh bien, il y a des galaxies qui ont réionisé 200 millions d'années après Big Bang, et il y en a d'autres qui ont réionisé 600 millions d'années après Big Bang. C'est une très, très grande diversité de cas, alors qu'aujourd'hui, ça donne le même objet. Donc, ça prouve que c'est un processus quand même relativement complexe à comprendre. Une chose aussi que je peux vous montrer rapidement, c'est que, vous voyez, dans ma simulation, en fait, dans mes simulations numériques, il y a des analogues de vraies galaxies. C'est-à-dire qu'en fait, la distribution de matière est réglée pour que ça forme dans ma galaxie, dans ma simulation, ici, un amas qui est un amas de Virgo. On en a parlé précédemment dans le cours qu'a fait Madame Combe, juste ici, l'amas de Virgo, enfin, un amas de Virgo synthétique. Il y a ici, en bleu, une voie lactée synthétique, et il y a ici, en rouge, une galaxie d'Andromède synthétique. Vous avez à peu près les bons rapports de masse, les bonnes distances, etc. Et ce qui est représenté ici en couleur, c'est l'époque de réionisation des différents points de ma simulation. En rouge, c'est les régions qui ont réionisé tôt, et en bleu, c'est les régions qui ont réionisé tard. La première chose qu'on constate, c'est que les contours d'époque de réionisation du l'amas de Virgo n'empiètent pas sur ceux du groupe local, c'est-à-dire l'ensemble voie lactée galaxie d'Andromède. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que d'après ce modèle-là, eh bien, ce n'est pas l'amas voisin qui a envoyé beaucoup de lumière pour réioniser la galaxie d'Andromède et la voie lactée. D'accord ? Le groupe local s'est réionisé tout seul comme un grand et n'a pas eu besoin de lumière extérieure. Et maintenant, quand on regarde dans le détail, ici, en bleu, c'est notre pseudo-voie lactée, en rouge, c'est notre pseudo-galaxie d'Andromède, on voit à nouveau que les contours d'époque de réionisation de la voie lactée n'empiètent pas sur ceux de la galaxie d'Andromède. Ça veut dire que ces deux objets-là, ils ont beau être très proches les uns des autres, d'accord ? Ce n'est pas la lumière du voisin qui a réionisé la galaxie dont on parle. Ce n'est pas la lumière de la galaxie d'Andromède qui a réionisé la Voie lactée, et ce n'est pas la lumière de la Voie lactée qui a réionisé la galaxie d'Andromède dans ce modèle-là. Donc voilà le genre de mesure qu'on essaie de faire, d'accord, à l'aide de ces simulations-là. Donc j'ai terminé. Juste en résumé, dans quelques points. Donc, j'espère vous avoir convaincu que la réionisation, hein, c'est une étape essentielle, hein, de compréhension de la formation des galaxies et puis de la cosmologie en général. Et comme j'ai essayé d'expliquer, bah, moi j'aborde ça d'un point de vue de simulation numérique, et ça demande des nouveaux moyens de calcul parce qu'il y a des nouveaux défis à résoudre. Alors, il y a beaucoup de choses à faire encore. De toute façon, les données vont venir. On aura tout le temps de se tromper en attendant que ces données nous arrivent dessus. Donc, c'est une affaire à suivre. Et j'espère que ça pourra continuer comme ça. Et voilà, j'en ai terminé. Merci.